chers amis, auditeurs et auditrices, bonjour. Nous voici pour la deuxième émission concernant Saint-François, notre école, présentée par Thierry Beria, qui est en face de moi, et moi-même, Michel Marpeau. Notre projecteur, aujourd'hui, se dirigera vers la chapelle. Pourquoi la chapelle alors que nous parlons d'école ?
Ah, quand je suis venu dans cette école, bien que je suis chrétien, mais je ne suis pas catholique. Quand je suis venu dans cette école, j'ai très vite compris que le cœur, à tout point de vue de cette école, c'était la chapelle. Que ce soit le cœur géographique, nous avons une chapelle imposante dans notre cour de récréation que l'on voit de loin, que ce soit le cœur battant, le cœur des cérémonies, le cœur chrétien de notre école, mais aussi, et c'est l'une des caractéristiques qui m'a beaucoup frappé et ému, un cœur souffrant. Cette chapelle a toujours beaucoup souffert. Dès l'origine, j'ai senti que ça avait compté, c'est pour cela que je m'y suis intéressé et c'est pour cela que je souhaite que ce soit l'objet de cette deuxième émission. Car enfin, il faut comprendre pourquoi cette chapelle a une telle importance depuis le début.
Et pourquoi est-elle si importante ?
Alors, rappelons que l'institution Saint-François de Sales est l'œuvre, est le fruit de la volonté d'un archiprêtre, l'abbé Gonnet, en association avec 11 familles qui voulaient donner un enseignement qui soit à la fois humaniste et chrétien aux jeunes. Humaniste, l'enseignement allait y pourvoir. Chrétien, il fallait qu'une chapelle puisse y correspondre. Et le premier directeur, à l'époque on appelait ça un supérieur, l'abbé Joseph Dupont, voulait dès le point de départ qu'une chapelle accompagne l'ouverture de l'école. Rappelons que l'école, pendant 3 ans, s'était tenue dans des locaux provisoires vers la rue Porchaîne, la rue des Marcheries. C'est pour cela qu'il y a le sigle Saint-Blaise dans notre école. Et en 1888, les locaux définitifs sont ouverts rue Labillardière. À la même époque, une chapelle provisoire est édifiée. Cette chapelle, j'en ai une photo là actuellement sous les yeux, c'est un bâtiment de briques et de bois sur la cour de récréation. C'est un bâtiment touchant par sa simplicité, mais qui déjà signifie la volonté qu'au moment où l'école s'ouvre, il y ait ce lieu qui s'ouvre. Il y a un document qui témoigne de cela, alors dans le style de l'époque, un style qui fait penser à un Flaubert au premier degré, et qui est tiré du journal d'Alençon du 30 octobre 1888. Je me permets d'en lire quelques extraits. La ville d'Alençon était hier le théâtre d'une touchante cérémonie, la bénédiction solennelle de l'école Saint-François de Sales. Les oriflammes et les drapeaux dont le gracieux édifice était pavoisé, la verdure et les fleurs artistement disposées aux abords de la maison et dans le grand escalier, la bonne tenue des élèves dans leur coquet uniforme produisaient dès l'abord la plus favorable impression. L'élite de la société alençonnaise, si sympathique à la nouvelle école, s'était donné rendez-vous à cette fête que Monseigneur l'évêque avait tenu à présider en personne. Mais derrière ce style fleuri, ce style de journaliste de l'époque, ce style très flaubertien, il y a un discours qui est le discours que l'abbé Joseph Dupont a adressé, qui est beaucoup plus touchant. Et je retiens ceci de ce discours. Il s'adresse donc à l'évêque et dit ceci. En même temps, le zèle admirable des dames patronesses trouvait en de quoi suffire aux besoins journaliers de l'ancienne école Saint-Blaise, devenue désormais, sous son nouveau vocable, la cliente de votre glorieux patron Saint-François de Sales. Pourquoi le vocable de votre glorieux patron ? Parce que l'évêque de l'époque s'appelait François Trégarot. Grâce à tous ces dévouements, l'école Saint-François de Sales est aujourd'hui solidement établie, mais elle n'est pas achevée et vous aurez tout à l'heure à gémir avec nous, Monseigneur, de l'exiguïté de notre pauvre petite chapelle. Bien d'autres choses manquent encore qu'un avenir prochain rendra nécessaire.
Oui, Là, vous nous parlez d'une chapelle provisoire, toute simple. Et pourtant, maintenant, quand on passe le long de la voie ferrée, on voit un très important édifice.
Oui, imposant, très imposant. Quand on vient par la voie ferrée, on ne peut pas ne pas la voir. C'est un édifice très important, 600 personnes peuvent facilement y tenir. Je pense même qu'on pourrait y mettre 800 personnes, mais c'est aussi plus imposant encore par la ferveur. Je disais que cette chapelle, l'abbé Dupont la voulait ardemment. Il la voulait même tellement qu'une rumeur court, une légende que je n'ai jamais vérifiée. La légende voudrait que lorsque l'abbé Joseph Dupont, fondateur de l'école, soit mort, il ait voulu être enterré sous la chapelle de cette école. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais la légende est belle. L'abbé Dupont n'aura jamais vu cette chapelle édifiée, ni son successeur, l'abbé Fortin, ni son successeur encore, l'abbé Louvard, qui était pourtant fervent défenseur de cette chapelle, mais qui est nommé évêque. En fait, c'est l'abbé Bidard, le quatrième directeur supérieur de cette école, qui va présider à l'édification de cette chapelle. Alors pendant des années et des années, des dons affluent, des aides s'accumulent, des subventions. J'ai là sous les yeux également des lettres de donateurs qui pendant des années vont ainsi permettre l'édification de cette chapelle. On voyait grand, on voyait très grand, on voulait très grand pour cette école. Et en 1937, enfin, le projet est réalisé. Et c'est ainsi que le mardi 7 octobre 1937, il y a à la fois la consécration de la chapelle en même temps que les noces d'or de Saint François. Alors cette chapelle, on décide de lui donner un nom. La chapelle provisoire, à ma connaissance, ne portait pas de nom. Mais on décide de donner à cette chapelle le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là encore, ça mérite quelques commentaires. Rappelons que la décision de la béatification de Sainte Thérèse date de 1923. Et c'est en 1923 également que la décision est prise de donner ce nom à la chapelle. La chapelle commence à être construite en 1924. Elle sera consacrée, je viens de le dire, en 1937. Alors, cette chapelle est-elle la première à porter le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ? Dans le projet, oui. Dans la réalisation, c'est la deuxième, puisque les apprentis d'Auteuil ont construit eux aussi une chapelle dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais gardons le fait que notre chapelle est la première à avoir eu le projet de porter ce nom. Donc, ce 7 octobre, le plus beau monde est réuni. Il y a bien sûr Monseigneur Louvard, qui est l'évêque de Coutances et d'Avranches, qui est l'ancien directeur de l'école. Il y a Monseigneur Grant, qui est cardinal, membre de l'Académie française. Il y a toute une série d'évêques qui sont présents. Je ne vais pas citer leurs noms, ce serait trop long. Mais il y a vraiment une grande cérémonie qui est faite et l'on espère que cela deviendra vraiment ce cœur battant dont je vous parlais. Et de fait, il y a eu de très nombreuses activités qui se sont déroulées. Forcément des activités spirituelles, bien évidemment, mais aussi des activités intellectuelles. Il y a eu des représentations de théâtre, il y a eu des remises des prix. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier la très grande importance de la dimension artistique.
Je crois qu'il est temps de faire une petite pause musicale et nous reprendrons tout à l'heure. Vous nous parliez, Thierry, de Saint-François, notre école, et nous étions arrêtés à La Chapelle, centre d'activité artistique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Cette chapelle était splendide, immense. Des mosaïques rouges la décoraient, qui hélas ont été très abîmées par la guerre, nous en reparlerons. Mais peut-être que le point d'orgue, sans mauvais jeu de mots, de cette chapelle, le point le plus artistiquement intéressant, c'était les vitraux de Louis Barillet. Mais pour évoquer cela, je ne vois personne d'autre que mon ami de toujours, M. Jean-François Emery, pour évoquer cela, car il y a beaucoup travaillé. Et M. Emery est notre invité de ce jour. Je lui laisse la parole pour évoquer cette dimension artistique.
Alors, parler de La Chapelle du point de vue artistique, c'est parler principalement de l'atelier Louis Barillet. Alors, qui est Louis Barillet ? D'abord, c'est un ancien élève de Saint-François qui a eu toute une formation de plasticien qui, pendant la guerre de 14-18, et vous allez voir, c'est assez intéressant, pendant la guerre de 14-18, il va être dessinateur et chef de la section photo, ce qui va l'amener à faire petit à petit des médailles à la gloire des aviateurs tombés ou non au combat. Par exemple, le portrait de Guynemer que nous connaissons tous, qui est dans tous les ouvrages concernant l'aviation de la Première Guerre, c'est un portrait réalisé par Louis Barillet. L'autre intérêt de cela, c'est que Louis Barillet va rencontrer un certain nombre de gens pendant la guerre, par exemple André Mar. André Mar, qui va être, il aura une drôle de spécialité, c'est faire du camouflage, peindre du camouflage. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 1919, tous ces gens-là vont se réunir dans une association qui va s'appeler les artisans de l'hôtel, qui veut exécuter en art tout ce qui se rapporte au culte, mettre leur art au service du culte. Alors, ça va impliquer différentes choses. Différents ateliers vont se créer, dont l'atelier Louis Barillet. Dès 1920, on a un atelier Louis Barillet, avec ce qui se fait de mieux comme plasticien à ce moment-là, Jacques Le Chevalier, par exemple, qui rejoint tout de suite Louis Barillet, et Théodore Hansen, qui le rejoint à l'atelier en 1922. Avec, comme j'ai envie de dire, comme parrain, un monsieur que tout le monde connaît, Maurice Denis. Maurice Denis qui dit à propos de Barillet, pour Barillet, la première qualité de vitrail est d'être une symphonie coloriée et colorante, composant une atmosphère lumineuse, une harmonieuse bigarrure. Il ne cherche pas à représenter quelque chose. Un vitrail doit être conçu et ordonné en vue d'intensifier les jeux de la polychromie. L'élément descriptif sera subordonné aux exigences de la couleur. Le dessin ne sera qu'approximatif, un peu tracé géométrique, sans dimension ni relief, sans perspective. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire tout simplement que il s'agit, et je prends les mots de Louis Barillet dans une conférence qu'il donnera sur le vitrail, il s'agit de créer un espace où le recueillement est possible. Et pourtant, vous me direz, quand on visite Saint-François de Sales, les vitraux sont très figuratifs, très figuratifs, et répondent à un programme très précis. Chaque verrière compte deux paraboles, la mise en image de deux paraboles. C'est essentiel dans la mesure où ça répond au projet d'enseignement, en fait, sachant que ces paraboles-là vont être complétées par toute une série de choses réalisées en mosaïque, hein, sur les bas-côtés, sur la voûte, hein, qui vont en fait mettre les adolescents dans un espèce de bain, de bouillon de culture, véritablement, avec les deux figures tutélaires de chaque côté du cœur, hein, Saint Blaise à gauche et Saint François de Sales à droite. Les vitraux, c'est aussi une occasion pour l'atelier Barrier de raconter l'histoire de Sainte Thérèse. Malheureusement, les quatre vitraux qui le font ont disparu aujourd'hui. C'était les vitraux du cœur, hein, mais on avait le récit, enfin, les grandes étapes en quatre vitraux de la vie de Sainte Thérèse. J'ajouterais que Barillet, c'est le rénovateur véritablement de l'art du vitrail en France. Ça, c'est très important, et on a une chance incroyable à Saint-François, c'est qu'on a 6 verrières absolument intactes. Rénovateur, ça veut dire quoi? C'est qu'il va retrouver des techniques qu'on avait perdues, des techniques du Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire teinter le verre dans la masse, grâce à la complicité d'ailleurs des verreries Saint-Gobain. C'est assez marrant, il y a une réunion de l'industrie et de l'art, hein, autour de projets de vitraux comme cela. Rénovateur de l'art du vitrail, ça veut dire qu'il va être il va diriger un atelier qui va avoir un grand succès. Il va travailler un petit peu partout en France, y compris pour Notre-Dame de Paris.
Merci bien, Jean-François. Cette chapelle, donc, dont vous venez de nous parler, est un lieu excessivement précieux, objet de quantité de soins. Néanmoins, cette chapelle fut excessivement malheureuse.
Oh oui. J'ai parlé tout à l'heure de cette chapelle comme centre géographique. J'ai parlé de cette chapelle comme lieu battant du cœur de Saint-François. Il faut évoquer cette chapelle comme le lieu souffrant de Saint-François. Lieu souffrant parce que je rappelle qu'elle a été inaugurée en 1937 et la guerre arrive. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, nous aurons une émission pour évoquer cela, les Allemands vont occuper l'école Saint-François de Sales et vont transformer la chapelle en hôpital militaire allemand. Là-dessus, au moment du débarquement des Alliés en juin 1944, les Américains vont bombarder à plusieurs reprises la gare et le chemin de fer. Rappelons que notre institution est juste à côté et nombre de bombes vont tomber sur l'école et une en particulier va tomber sur la chapelle. Je lis rapidement un tout petit paragraphe tiré d'un document de l'époque. L'une de ces bombes avait frappé la nef de plein fouet, explosant probablement au contact du sol de la nef. Elle avait percé un énorme trou de plusieurs mètres de diamètre et fait un carnage dans la crypte où, disait-on, s'étaient abrités des dizaines d'Allemands. Sérieusement endommagée, la voûte de la nef en ciment armé subsistait en majeure partie. Curieusement, elle paraît s'être soulevée d'un bloc pour retomber sur les murs porteurs en se déplaçant de quelques centimètres. Cela a tellement frappé les personnes à l'époque, les élèves, les professeurs, que ça a été représenté plusieurs fois. J'ai un magnifique dessin représentant cette chapelle éventrée et on se demande effectivement comment on a pu ensuite reconstruire à partir de cela. Car, et c'était la volonté de l'abbé Bidard, on a reconstruit. L'abbé Bidard, qui était toujours le directeur de l'école, aurait dit juste après la guerre, au moment où l'école était très endommagée, nous allons reconstruire et nous allons d'abord reconstruire la chapelle.
Et comment on s'y est pris pour la reconstruire?
Ah, ça a été laborieux, ça a été lent, ça a été douloureux, ça a demandé des années et des années. D'abord, il fallait rendre à cette chapelle son rôle. Il fallait qu'elle soit le centre des cérémonies. Une chapelle où il n'y a pas de cérémonie n'est pas réellement une chapelle. Donc très vite, et encore maintenant, je tiens à le souligner, cette chapelle reste le lieu d'un culte. Mais il fallait aussi restaurer le bâtiment, l'entretenir. Ça a été long. Une association existe encore. Une association s'est même créée dernièrement pour essayer de restaurer tout cela. Alors, il y a au programme toute une série de chantiers. Nous avons ainsi restauré dernièrement la rosace. Il est question de travailler sur les verrières. Et on a installé également sur le fronton de la chapelle une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est vrai aussi que nous essayons de rendre cette chapelle accessible. Mon ami, Monsieur Emery, fait visiter lors des journées du patrimoine cette chapelle en parlant justement de ces vitraux de barillet. Mais n'oublions pas que cette chapelle, c'est l'héritage de Saint François. Nous l'avons reçue, à nous d'essayer de la restaurer le mieux possible et à nous aussi de la laisser à ceux qui viendront après nous.
Que voulez-vous nous faire comprendre par héritage à transmettre ?
Ah, que l'histoire de Saint-François, c'est une succession de constructions, de destructions, de reconstructions, peut-être de nouvelles destructions. Nous avons en charge des bâtiments et un esprit et, entre guillemets, dans une certaine mesure, une âme. Il faut essayer de redonner du sens à cela. C'est ce que nous nous efforçons. Mais nous ne sommes qu'un chaînon. C'est cela que je veux dire. Nous sommes un chaînon. On essaye de faire battre ce cœur, mais on doit transmettre cet héritage ensuite à d'autres.
Vous avez parlé de construction, de démolition. Comment ce problème s'est-il posé exactement à la fin de la guerre, tant pour la chapelle que pour les bâtiments de l'école ? Comment Saint-François a-t-il pu se relever ?
C'est l'objet de la troisième émission que j'ai prévue. Je sais que cette période de destruction pendant la guerre et de reconstruction ensuite tient à cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens. C'est pourquoi, lors de la troisième émission, je me propose d'évoquer cette période de la guerre, puis de la reconstruction, puis de la nouvelle expansion de Saint-François.
Merci bien, Thierry. Merci bien, Jean-François. Et à la prochaine émission.